Les rendez-vous.
The meeting.
Les rendez-vous.
The meeting of the opera studio.
Ontmoeten aan het opera studio.
Les rendez-vous.
The meeting.
Les rendez-vous.
L'appuntamento dell'opera studio.
Try to remember the kind of September when life was slow.
C'est pas bien ça.
Les lents et fous.
Les sans les roues.
Les.
C'est dans
le. Les lents. Lents des roues.
Le.
En espagnol.
De l'opéra.
Ah, pas bienvenue.
Studio.
The Opera Studio's Rendezvous.
Los Encuentros de l'Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Poznanie Opera Studio.
Merhaba, le rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Chers amis, auditrices et auditeurs des rendez-vous de l'Opéra Studio, bien le bonjour. Aujourd'hui, le portrait de Louane, qui n'est ni chanteuse, ni pianiste, ni chef d'orchestre, mais qui est cependant une actrice incontournable de l'Opéra Studio. Chère Louane, bonjour.
Bonjour Sandrine.
Alors tout de suite, la première question. Depuis quand fais-tu partie de l'équipe Opéra Studio ?
Je suis une petite nouvelle, je suis arrivée le 17 février, donc ça fait un mois et demi. Que je suis arrivée.
Très bien. Et comment es-tu arrivée jusqu'à nous ? Quelle a été ta première expérience dans l'opéra ? Est-ce que c'est ta première expérience dans un établissement culturel ou bien est-ce que tu as eu une expérience précédente dans une maison d'opéra ou un théâtre ?
Alors, c'est ma première expérience dans un établissement culturel. J'ai fait beaucoup de petits boulots d'étudiante. J'ai travaillé dans des banques. J'ai été babysitter, j'ai été prof de musique, prof de soutien, j'ai fait du service, du ménage. Mais là, c'est vraiment ma toute première expérience et dans un opéra. Et en fait, je suis arrivée en stage, mais pas du tout à l'Opéra Studio, je suis arrivée en stage au Mécénat.
Ah, au Mécénat, mais quand même à l'Opéra National du Rhin.
À l'Opéra National du Rhin, mais au Mécénat.
Ouais. D'accord. Donc en fait, tu fais un petit peu tous les services, c'est intéressant.
C'est ça.
Donc finalement, tu découvres tous les métiers qui font qu'une maison d'opéra fonctionne. Parce qu'en fait, on voit les chanteurs, les musiciens, les metteurs en scène, les costumiers. Mais derrière, il y a toute une équipe de fourmis qui font en sorte que tout ça puisse exister. Et donc, tes missions au Mécénat, est-ce que tu peux nous en dire deux mots ?
Bah, l'idée au Mécénat, c'était vraiment de trouver des fonds, littéralement. Avec la baisse des subventions dans le monde de la culture, c'est essentiel de trouver des financements alternatifs afin de ne plus dépendre entièrement des subventions.
D'accord.
Et du coup, l'idée, c'était de trouver des mécènes privés, des mécènes qui avaient un lien directement avec la musique, donc des mécènes comme des radios, mais aussi des mécènes dans le BTP, des banques. Et on essayait de mettre l'accent sur la région Alsace et Grand Est. Et du coup, voilà, l'idée, c'était de trouver
de l'argent.
C'est
oui, c'est ça, pour que les artistes puissent continuer à exister. Mais oui. Et donc, ces missions sont, j'imagine, très différentes des missions que tu remplis aujourd'hui à l'Opéra Studio.
Totalement. Mais en même temps, j'avais un lien avec l'Opéra Studio, puisqu'on avait beaucoup de mécènes qui avaient pour vocation de financer les projets de médiation culturelle. Et dans ces cas-là, on faisait beaucoup appel à l'Opéra Studio.
Qu'est-ce qu'on leur demandait aux artistes de l'Opéra Studio ?
On a été à Haute-Pierre faire un concert dans le service oncologie pédiatrique.
Ouais.
Ils ont aussi fait des galas. En médiation culturelle, on va leur demander d'aller à la rencontre du public, des publics un peu éloignés, tant géographiquement, qu'au niveau de l'éducation, qu'au niveau des moyens financiers.
Oui.
Et du coup, j'ai beaucoup travaillé avec l'Opéra Studio au Mécénat.
Oui, c'est ça. En fait, c'est vrai que les jeunes artistes d'Opéra Studio participent aux productions d'opéra tout au long de la saison, font des concerts, etc. Ça, c'est la pointe de l'iceberg. Mais c'est vrai qu'on sait moins qu'ils participent à de nombreux projets socio-éducatifs, pédagogiques, et qui vont à la rencontre des publics dits empêchés. Alors donc, parfois dans des hôpitaux, et on sait bien pourquoi ils sont empêchés, parce que les personnes qui y sont malades et ne peuvent pas sortir. Donc, ce sont les jeunes qui vont à leur rencontre. Ils vont aussi parfois dans les prisons. Ça, je ne sais pas si tu as participé à ce genre de projet, mais nous allons souvent en prison aussi. On ressort, c'est bien ça qui est important. Et donc, ce sont toujours des rencontres très, très intenses, qui sont des rencontres surprenantes, souvent.
Ouais, ouais.
On en ressort toujours un peu grandi et un peu plus humble, je trouve. C'est très, très important pour les jeunes de faire ce genre de mission aussi. Et donc, ça veut dire que tu t'occupais de tout ça et donc tu accueillais les jeunes. Comment ça se passait ? C'est toi qui...
Je faisais plutôt le lien entre les mécènes et les jeunes. Moi, c'était vraiment proposer aux mécènes, déjà voir, parce que mécéner, c'est pas seulement donner de l'argent, c'est participer à des projets concrets, comme financer des costumes, financer des décors ou financer des actions culturelles, ouais, éducatives. Et l'idée, c'était d'essayer de cerner un petit peu le mécène, ce qu'il touchait, plutôt l'éducation, plutôt les publics empêchés, plutôt les décors. Il y en a beaucoup qui étaient très artistique et donc ils vont financer des costumes et du coup l'idée c'était une fois qu'on avait ce projet, donc je rentrais en contact avec l'Opéra Studio et on expliquait un peu la vision du mécène, qu'est-ce qui est possible de faire. On faisait des rendez-vous, on s'est rencontrés avant.
Oui, on s'est rencontrés à ce moment-là.
On s'est rencontrés avant.
Oui, oui.
Et puis, tu me disais si tu avais des idées de projet, si tu avais des chanteurs, des pianistes disponibles.
Oui, c'est ça. Parce que comme ils sont, on doit mettre ça dans le planning, bien évidemment.
Ouais, c'est
relativement pris.
Ouais.
Voilà, on essayait de faire coïncider les plannings de tout le monde pour que ces moments musicaux puissent avoir lieu. En effet, c'est une part très importante des métiers de l'opéra que d'aller chercher des personnes qui ont la corde sensible et qui ont envie d'aider les artistes. Et donc, tu ne restais pas toujours... Donc, quand tu étais au mécénat, tu étais plutôt basée à Strasbourg.
Ouais, c'est ça.
Parce que l'Opéra du Reims est basé sur trois villes, Strasbourg, Colmar, Mulhouse. Donc, je rappelle, à Strasbourg, c'est la maison mère, si on peut dire. À Colmar, on a l'Opéra Studio qui fonctionne toute l'année depuis plus de 50 ans, je le rappelle. Et à Mulhouse, c'est le ballet de l'Opéra National du Rhin qui est basé. Et donc, toi, tu naviguais un petit peu sur les trois villes pendant que tu étais au mécénat.
Comment j'étais ça s'est passé ? Plutôt à Strasbourg, mais dès qu'il y avait un événement, on suivait.
D'accord.
Et donc, du coup, j'ai eu la chance d'aller à Colmar. J'ai pas été à Mulhouse encore.
Ah, ça va venir.
J'ai pas encore été à Mulhouse. Mais on était principalement à Strasbourg et nos mécènes venaient principalement à Strasbourg. Mais on a été à Benfeld, on a été à Colmar, on a bougé un petit peu.
Et donc, depuis que tu es à l'Opéra Studio, que tu as un poste à l'Opéra Studio, est-ce que tu es plus souvent à Colmar ou est-ce que tu continues à rayonner quand même ?
Principalement à Colmar, mais je continue mon petit chemin. Donc je suis parfois à Strasbourg et puis dès qu'on doit bouger, notamment pour l'opéra volant, l'idée c'est de suivre les chanteurs dans leurs déplacements. Bon, quand ils ont des auditions à l'autre bout de la France, malheureusement, on ne peut pas les
suivre. Ouais.
Mais principalement Colmar, mais on bouge.
Et alors, quand tu suis les chanteurs, en fait, pour quelles raisons tu les suis ? Bon, parce que tu les aimes bien, ok, d'accord, parce que le spectacle est sympa, d'accord. Mais est-ce qu'il y a une raison plus pragmatique pour laquelle tu es
ouais,
là auprès
ouais,
d'eux ?
Bah, l'idée, c'est... Donc là, aujourd'hui, je suis assistante de production. Et quand je suis arrivée, je ne savais pas exactement ce que c'était que la production. Donc j'ai demandé, techniquement, j'ai signé, mais... pourquoi je suis engagée. Et je me souviens que le premier jour, Emile m'a dit, donc avec qui je travaille, il m'a dit « ton travail est bien fait quand on ne le remarque pas ». Et en fait, la production, c'est ça. L'idée, c'est tant de la logistique que de l'organisationnel, que du concret. Par exemple, je vais m'occuper des frais des artistes, tout ce qui est défraiement.
Oui, parce qu'ils sont amenés à se déplacer, donc
ouais,
bien évidemment,
ouais,
leurs frais leur sont remboursés.
Il y a des trucs très concrets, mais mm-hmm, c'est également les suivre dans leurs déplacements. Il faut penser, ils vont avoir besoin d'un accessoire, des ombrelles, hop, on pense aux ombrelles. Faut penser aux costumes qui suivent. Le piano, on n'a pas de piano, comment on fait ? Qui déplace le piano ? Quand ? Comment ? Et un piano, ça ne se déplace pas tout seul, donc
non,
qui peut m'aider ? Et du coup, on va les suivre pour tout ce qui est logistique de l'événement. Je ne vais pas chanter avec eux, mais du coup, c'est organisé pour que tout se passe bien.
Voilà, tu fais en sorte que tout soit mis en œuvre pour que tout se
ouais,
passe le mieux possible. Parce qu'il y a le spectacle, mais avant, il faut qu'ils aient des loges pour poser leurs affaires. Il faut qu'ils aient un endroit pour pouvoir chauffer leur voix.
Et tout ça, il faut trouver un créneau. Il
voilà,
faut savoir avec qui contacter.
Voilà,
où.
C'est ça. Voilà,
ouais,
c'est
ouais,
ça. Le matériel et puis l'organisationnel. Oui, c'est très riche, en effet. Tu es un peu leur maman, en fait.
Peut-être pas autant que toi, mais...
Bon, c'est bien. Moi, je vais...
Une grande sœur, ouais.
Oui. Alors, tout de suite, nous allons écouter le premier extrait que tu as choisi de nous faire entendre aujourd'hui.
need is 5 minutes, if you can seek to sigh. All I need is 5 minutes, if you read between the lines. One for the eyes and one for the voices. One for the touch, one for the soft grin, and then the kisses. And then the kisses. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes.
Je reçois aujourd'hui Louane Pinard, assistante de production à l'Opéra Studio de l'Opéra National du Rhin. Louane, peux-tu nous présenter l'extrait que tu as choisi de nous faire entendre ?
Alors, vous venez d'entendre 5 minutes de Her. Je l'ai choisi, c'est une de mes musiques préférées. Quand je l'ai découverte, j'ai fait une sorte d'obsession sur cette musique, j'arrêtais pas de l'écouter. C'était tant le rythme que les voix, que la guitare. Et en fait, pour l'anecdote, c'est un groupe d'artistes bretons. Parce que je suis bretonne, je viens de
Bretagne.
et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer Victor Zolf, un des deux chanteurs. Je l'ai vu sur scène et ça a été une révélation. J'ai adoré son grain de voix, sa manière d'être, sa simplicité. Il avait vraiment ce côté... c'est un chanteur, il est connu, mais d'une facilité, une proximité avec le public que j'ai adoré. Du coup, ça m'a fait qu'aimer encore plus ce groupe et notamment cette musique.
Ah d'accord, très bien, c'est une très belle histoire. Dis-moi, pourrais-tu nous dire maintenant quel parcours d'études tu as suivi et puis pourquoi ça t'a mené vers ce poste que tu occupes aujourd'hui ?
Alors, au niveau de mon parcours d'études, donc j'ai fait un bac ES, économique et social. Et donc en terminale, j'ai découvert Sciences Po. Je me suis dit, mais c'est pour moi, je veux trop le faire. Donc je me suis dit, je vais m'inscrire au concours 3 mois avant. Forcément, je l'ai raté. Bon, je l'avais pas préparé suffisamment. Et du coup, je suis rentrée en Hippocagne, en prépa littéraire.
Pas mal non plus.
Pour préparer le concours Sciences Po. Ça a été une année incroyable, très enrichissante humainement, culturellement, c'était dingue, mais très très dur. Et je me suis rendu compte que j'adorais le monde des lettres, mais que le cadre de la prépa m'étouffait beaucoup. Et c'était pendant le confinement, donc ça a été c'était vraiment très compliqué mon année de prépa. Et je me suis dit, j'ai un tournant, soit je rentre à Sciences Po et je l'ai, soit je ne l'ai pas, et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup la médecine. Donc c'était un tournant à 180. Donc c'était soit Sciences Po, soit je tentais pas cesse et rentrais en médecine. J'ai eu Sciences Po, du coup je suis rentrée à Sciences Po. J'ai quitté la Bretagne, je suis arrivée à Strasbourg. Incroyable découverte, franchement, j'avais jamais quitté l'Ouest. Je suis pas déçue de ce que j'ai rencontré. Donc j'ai fait 2 ans d'études dans un cursus assez global. Sciences Po, l'avantage, c'est que c'est très pluridisciplinaire. On a 5 grands blocs. Les 2 premières années, on étudie autant le droit que l'économie, que l'histoire, relations internationales, que la sociologie, les sciences politiques et les langues. La 3e année, elle est forcément à l'étranger. Moi, je suis partie en Colombie pendant 1 an. Et là, je suis en master 1 de POSO, donc politique et société. Et actuellement, je suis en césure avant mon master 2.
D'accord.
Ouais. Et du coup, je suis rentrée à l'opéra.
Mais finalement, c'est un parcours. Bon, c'est vrai que ton parcours d'études est très, très, très complet. Mais au départ, ce n'était pas vraiment l'orientation culturelle qui était visée, en fait, non ?
Non, si je comprends bien. Ouais. Mais en fait, alors l'opéra, je suis rentrée ici. Sur un malentendu.
Oui.
En fait, donc pendant mon. À Sciences Po, on spécialise progressivement.
Oui.
Ce que j'ai aimé, c'était ce côté pluridisciplinaire, toucher à tout. J'aime beaucoup toucher à tout. Et en fait, il y a eu ce truc. Pendant mon master 1, politique et société, je me suis rendu compte que j'avais un fort attrait pour le monde de la culture, la sociologie, l'humain, les sciences politiques. Mais de là à savoir que j'allais terminer à l'opéra, pas du tout. En fait, j'ai réalisé mon mémoire. Toujours sur ce côté médical, donc dans la sociologie de la médecine, sur la contraception en France. Et ça a été très intense. Ça a été des mois où j'étais enfermée chez moi à écrire. J'ai rendu une mémoire de 300 pages, donc c'était vraiment un travail monstre. Et après ça, avant de rentrer en Master 2, j'ai eu besoin de souffler. Donc je me suis dit, mais je vais faire une césure. Je pars en césure. Je l'ai un peu décidé au dernier moment et il fallait que je trouve absolument une césure. J'ai postulé partout, absolument partout. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aime ? Donc, j'ai postulé autant à l'hôpital qu'au théâtre de Strasbourg. J'ai postulé dans toutes les salles de concert, tous les théâtres, à l'opéra. J'y croyais pas vraiment, dans les radios, dans les journaux. J'ai postulé partout. Et en fait, une de mes premières réponses, c'était l'opéra. Je savais pas trop où j'allais. Je me suis dit, ok. On m'a dit, bah, si tu postules à l'opéra, c'est pour un stage au mécénat. Je savais pas ce que c'était vraiment le mécénat. Je me suis dit, bah, ok. C'est parti. L'entretien s'est très bien passé. On m'a rappelé, j'ai passé un 2e entretien. Ça s'est très bien passé. On m'a dit, bah, est-ce que tu veux commencer en août ? Ok.
Bah voilà.
J'avais besoin d'un stage maintenant. Oui. Donc oui, j'ai pu valider ma césure juste à temps. Je me suis dit, bah, ok, allons-y. Et je suis un peu entrée ici à l'aveugle. Donc sur un malentendu, un très bon malentendu.
Hein, oui, mais tu sais, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas trop de hasard dans la vie finalement.
Mais c'était vrai que c'était pas le plan.
Voilà, c'est ça. Et ouais. Donc, tu as découvert ce monde de l'opéra et plus particulièrement celui du mécénat.
Et
finalement, maintenant que tu as une expérience relativement longue à l'opéra, puisque tu y es depuis plusieurs mois, est-ce que ce fonctionnement est-ce que cette réalité est conforme à l'idée que tu t'en faisais avant d'y entrer ? Bah, même d'ailleurs, en avais-tu une idée ? Parce qu'en fait, finalement, comme tu es arrivée là un petit peu par hasard. Est-ce que finalement, tu as été surprise ou est-ce que tu dis wow, « Waouh, c'est un peu ce que j'imaginais » ou alors pas du tout, enfin.
Bah, conforme à l'idée que je m'en faisais, oui et non, parce qu'en fait, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre.
Oui.
Mais en même temps, je pense que si je m'étais vraiment attendue à quelque chose, ça n'aurait pas du tout ressemblé à ce à quoi je m'attendais. En fait, je suis très tournée vers le monde du théâtre. Moi, je fais du théâtre depuis que j'ai 5 ans. J'aime beaucoup la musique, pareil, je suis très tournée théâtre et musique, principalement. J'ai jamais été à l'opéra de ma vie, mes parents sont pas du tout opéra non plus. J'avais jamais écouté d'opéra non plus de ma vie. Et pour l'anecdote, je me souviens, le premier opéra que j'ai vu, c'était la musique contemporaine, c'était Picture Day Like This. Mm-hmm. Et je me souviens m'être assise, en me disant, voilà, super, c'est mon premier opéra. Ça faisait déjà un mois que je travaillais à l'opéra. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle chantait. Je me suis dit, mais elle chante tout le temps, elle arrête jamais de chanter. Je me suis dit, mais il parle pas, en fait, à l'opéra. Et il chantait.
Ah oui?
Et c'est tout bête, en fait, mais je me suis rendu compte, une fois assise à l'opéra, mais il faisait que chanter. Et ça a été un peu, pas une claque, mais ça a été un peu bizarre. Je me suis dit, mais ça fait un mois que je travaille là, j'ai jamais réalisé un opéra, mais ils font que de chanter, en fait.
Bah oui, ça, il y a beaucoup de chanteurs, hein.
Et donc,
c'est sûr. L'opéra.
Et en fait, ça a été un peu particulier, parce que moi qui suis très habituée au théâtre.
Ouais.
Et à la musique, mais jamais mélanger les deux, ça a été un peu, ça a pas été une claque, mais en fait, c'est juste, faut s'y faire. Mm-hmm. En fait, j'avais jamais imaginé ce que ça pouvait rendre, l'opéra. Et aujourd'hui, j'adore ça, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant d'avoir des décors aussi grands qu'au théâtre, d'avoir un orchestre aussi grand que si on venait voir un orchestre, et d'avoir des chanteurs pendant 2 heures qui font une pièce.
Oui, qui nous racontent une histoire,
c'est ça,
en chantant.
Ouais, ouais.
En fait.
Donc, très particulier, mais ça a beaucoup touché à ma sensibilité, et j'ai adoré.
Et donc, tu dis que tu as fait du théâtre, et donc tu as fait du théâtre quand tu étais toute jeune, parce
c'est
que
ça,
là,
tu
es encore très, très jeune. Donc, tu étais très, 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 très jeune. Et tu jouais une pièce de théâtre tous les ans, une pièce différente. Comment ça se passait?
Mais quand j'ai commencé le théâtre, en fait, avant, j'ai fait très jeune, j'avais 4-5 ans, je touchais un peu à tout, j'avais beaucoup d'énergie, il fallait un peu me canaliser. J'ai essayé la danse classique, et très rapidement, on a fait comprendre à mes parents que c'était pas pour moi.
Ah bon.
J'avais trop d'énergie, j'étais trop dissipée. Ils m'ont dit, mais faut la canaliser. Et dans mon village, on est 1000 habitants, mais dans mon village, il y avait une petite troupe de théâtre. On y avait été voir des amis à mes parents, et je les ai vus sur scène. Je me suis dit, mais c'est ça, en fait, que je veux faire. Donc, mes parents m'ont dit, bah, ok, pourquoi pas. Et j'étais toute jeune, j'étais au CP. Et je savais à peine lire, mais j'essayais comme ça d'apprendre mon texte. Et en fait, ça m'a pas quitté. Donc, j'ai évolué dans cette troupe jusqu'à mes 17 ans, jusqu'au lycée, en fait. Du CP jusqu'au lycée, tous les ans, dans cette petite troupe, j'ai rencontré mes meilleurs amis. Chaque année, on avait un spectacle. C'est un café-théâtre. Donc, les grands-parents venaient voir, tous les gens du village venaient, mais c'était quand même chouette. Il y avait des costumes. Il y avait le souffleur dans sa petite cage. Enfin, c'était incroyable. Et en fait, c'était pas dans un conservatoire classique, c'était associatif, mais c'était incroyable, franchement. Et puis après, mon petit frère a fait du théâtre, m'a suivi, ma petite sœur, mon père, ça lui a donné envie. Et donc, on était tous les quatre dans cette association de théâtre.
Ah, c'est formidable.
C'était
incroyable. Ah oui, ça devait être la
ouais.
fête.
En ouais, fait. Ouais, ouais,
oui,
ouais.
C'est la fête.
Du coup, le théâtre, j'adore ça. Et jusqu'à Sciences Po, où j'ai intégré la troupe de théâtre à Sciences Po.
Ah oui, quand même. Petite la fibre artistique,
année,
quand même. Hein.
C'est ça.
Oui, oui, oui.
Ouais.
Tout de suite, chère Louane, le deuxième extrait que tu as choisi de nous faire entendre.
Thank you.
Je suis toujours avec Louane qui nous a fait découvrir ce très bel extrait pour violon. Mais pourquoi cet extrait, Louane ?
Alors, du coup, c'est vrai, c'est Sur le fil de Yann Tiersen. J'adore Yann Tiersen, vraiment. Je fais du violon depuis que je suis toute petite.
Alors, non seulement du théâtre, mais du violon, effectivement, hyperactif, c'est parfait.
Hyperactif. J'ai commencé le violon, pareil, au CP. Et j'ai découvert Yann Tiersen et ça a été une vraie romance, bon, que dans un sens.
Bon, celui-là, cette personne-là, tu ne l'as pas rencontrée parce que le groupe précédent, tu avais rencontré le chanteur. Là, tu n'es
alors,
pas allé rencontrer.
Breton,
ah,
mais
donc
je
il a quand même la qualité principale,
c'est
breton.
Ça. Il
d'accord.
est breton, il est brestois.
Ouais.
Mais en fait, j'ai découvert Yann Tiersen dans Amélie Poulain.
Ouais.
Et j'ai découvert ce morceau Sur le fil qui a été un de mes premiers morceaux en solo et un vrai coup de cœur. Franchement, quand ça va pas, c'est le morceau, quoi.
D'accord. Donc, tu es instrumentiste.
Ouais.
Tu es comédienne.
Ouais.
Est-ce que par hasard, tu serais un petit peu chanteuse ?
Pas du tout.
Non.
Non, bah. Franchement, non. Enfin, j'aime bien siffler, fredonner.
Oui. Oui.
Je ne chante pas.
Bon, d'accord. Mais par contre, tu t'occupes de chanteurs.
C'est
ça. Et d'après toi, quelles sont les qualités requises pour bien s'occuper de chanteurs d'opéra ?
Alors, c'est assez compliqué. Je dirais de la sensibilité. De la sensibilité dans le sens où ça va impliquer de l'écoute, de la patience, de la compréhension. L'idée, c'est... je pense qu'il faut vraiment pouvoir et savoir s'adapter tant aux situations, parce qu'on va s'occuper des chanteurs en moment de stress, quand ils sont aux auditions, au moment où ils ont des coups de mou, au moment où ils sont euphoriques, ils ont plein de projets, voire trop de projets, que s'adapter au niveau de leur personnalité. On va avoir, enfin, c'est tous des chanteurs et on les voit sur scène, on se dit mais ces personnes ont confiance en elles, elles sont charismatiques. Enfin, c'est des humains comme tout le monde et il y en a qui sont très expansifs, c'est vrai, mais il y en a qui sont beaucoup plus introvertis, beaucoup plus timides, qui n'ont pas forcément confiance en eux. Et du coup, je pense que de la sensibilité pour bien travailler avec eux en tout cas.
Oui, c'est ça. Et puis la bienveillance et puis finalement de la prévenance. Enfin, il faut essayer de prévenir justement ces moments de stress ou ces moments de mou, comme tu dis si bien. Et c'est vrai qu'ils peuvent être très euphoriques et puis après ça retombe parce que c'est beaucoup d'énergie pour être chanteur. Et puis dans la tête, il faut un mental assez solide.
Ouais.
Et parfois, il suffit d'être fatigué ou d'une remarque un petit peu blessante ou tout simplement un petit souci personnel. Et puis, ça peut ébranler un chanteur, enfin un artiste en règle générale. Et les pianistes chefs de chant qui sont des instrumentistes et musiciens qui eux-mêmes s'occupent aussi des chanteurs, mais d'une autre manière, ils s'occupent plutôt du côté artistique. Ils leur apprennent leur rôle et les guident dans le style de ce qu'ils ont à chanter. Est-ce que tu dirais que l'approche pour encadrer des pianistes est sensiblement la même que pour encadrer des chanteurs ?
Bah, oui et non, c'est des artistes à part entière qu'on oublie plus parce qu'ils ne sont pas forcément sur le devant de la scène. Soit ils sont dans une fosse, soit ils sont là pendant toutes les répétitions, mais on ne les voit pas tellement. Mais oui, ça reste des artistes, donc il y a toujours d'avoir cette sensibilité, d'être à l'écoute. C'est pareil, c'est super important. Même s'ils ont ce côté, je pense... en tout cas, moi, de ceux que j'ai rencontrés, ils ont vraiment les pieds sur terre. C'est des personnes assez carrées. Et c'est vrai que... Bah déjà, ils s'occupent déjà des chanteurs.
Oui.
Enfin, ils sont là pendant toutes les répétitions, ils les suivent, ils font les coachings. De tout ce que je vois, quand on fait les plannings, ils sont là. Ils sont là chaque semaine pour nous aider à faire les plannings parce qu'ils savent exactement qui a besoin de travailler quoi, quand. Le matin, c'est pas top. Peut-être l'après-midi, cette personne-là, c'est mieux. Ils connaissent très bien les chanteurs. Et donc, même si nous, on est très, très proche des chanteurs, ils sont parfois ce trait d'union entre nous et les chanteurs.
Oui,
ils sont un peu plus dans leur tête encore.
Oui, c'est ça. Ils ont un côté très protecteur aussi, à la fois pédagogique aussi, parce qu'ils sont dans la pédagogie. Et effectivement, ils essaient de trouver le meilleur... Ils adaptent leurs conseils et puis la façon de donner des conseils à chaque chanteur. Voilà, on ne parle pas de la même façon à tous les chanteurs et toutes les chanteuses. C'est vrai, c'est un maillon très, très, très important, les chefs de chant dans une maison d'opéra. Et maintenant que tu as découvert l'énorme animal qu'est une maison d'opéra, Est-ce que ça t'a appris des choses humainement ou artistiquement ou bien socialement?
Bien sûr. Franchement, ouais. Toute expérience est bonne à prendre, quelle qu'elle soit. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'un opéra, enfin le fonctionnement d'un opéra est vraiment très complexe, et plus que complexe, il est multiple. En fait, notamment l'Opéra National du Rhin, quand on rentre à l'opéra, on voit la scène et on voit cette maison mère à Strasbourg. Ce qu'on voit pas, c'est qu'au Grenier d'Abondance, juste à côté, il y a les perruquiers, il y a les costumiers. Ce qu'on voit pas, c'est qu'à la Méno, il y a l'atelier de décor. Ce qu'on voit pas, c'est qu'à Mulhouse, il y a le ballet. À Colmar, il y a les chanteurs. Et en fait, c'est ça, c'est un fonctionnement, c'est une vraie fourmilière. C'est des gens qui fonctionnent, enfin, y a une interdépendance entre chacun, et quel que soit son travail. En fait, j'ai découvert énormément de métiers et qui cohabitaient dans un tout petit espace. Enfin, l'opéra, c'est plus de 200 salariés permanents. Enfin, j'ai regardé rapidement sur Internet et c'est près de 700 intermittents par saison. C'est vraiment une fourmilière, un monstre énorme, mais il y a un côté très humain. Et forcément, quand on y va, on voit les chanteurs, les danseurs. Mais ce qu'on n'imagine pas derrière, c'est qu'il y a les régisseurs, les éclairagistes. Mais il y a les peintres, les tapissiers, il y a des serruriers qui travaillent avec les perruquiers, des bottiers, des agents d'entretien. Et en fait, il faut de tout ça pour faire ce monde qu'est l'opéra. Et ça a été franchement... Alors, ça a été dur de quand je suis arrivée. Je me suis sentie très perdue. Mais en fait, je ne me suis jamais sentie seule parce que... Enfin, franchement, tout le monde a été très gentil avec moi. Mais il y a eu ce côté de voir des gens passionnés et donc passionnants. Et donc, j'ai énormément appris auprès d'eux, que ce soit au mécénat ou à l'Opéra Studio. Chaque personne que j'ai rencontrée m'a fait découvrir soit son métier, soit une manière de travailler, soit m'a partagé un peu sa passion. Et c'est, enfin, intellectuellement, c'est dingue, quoi.
Et côté public, est-ce que tu dirais que cette forme d'art est plutôt réservée à des personnes qui seraient initiées?
Bah oui et non. Ce serait un peu hypocrite de dire non, tout le monde peut y aller, bien sûr que non, sachant que j'ai fait des études, une prépa littéraire, Sciences Po, c'est quand même des études assez renommées, réputées. On a un capital culturel qui normalement est lié à un capital économique qui, enfin oui, normalement c'est intrinsèque à ça, mais enfin moi en tout cas, j'ai passé la porte de l'opéra pour la première fois à 23 ans. J'ai jamais osé en fait y aller.
Et qu'est-ce qui faisait que tu n'osais pas y aller? Ça, c'est intéressant.
Bah, je pense que le milieu dans lequel j'ai grandi, déjà mes parents ne sont pas instrumentistes. Ils sont pas du tout dans le monde de la culture. Mon père est routier et ma mère travaille dans les crèches et dans le monde de l'enfance. Et en fait, ils sont pas du tout musiciens. Ils ont toujours aimé la musique, ils m'ont toujours soutenue, mais ils ont jamais joué d'un instrument. Le seul théâtre où on a emmené, c'est ce petit théâtre dans mon village. Mais ils ont jamais eu un monde, en tout cas dans le pied de l'art et de la culture. Et donc c'est vrai que j'avais pas ce bagage-là, en tout cas dans mon enfance. Et du coup, je sais pas, je dirais une petite violence symbolique de l'opéra. Il y a quand même une réputation, enfin il y a un imaginaire qui se crée autour de l'opéra. Et même si l'opéra est à 5 minutes à pied de chez moi, il y avait quand même cette barrière symbolique d'ouvrir les portes. Enfin, j'avais peur de me prendre une claque, j'avais peur de pas être à ma place, de pas comprendre, je connaissais pas. Et puis c'est un inconnu qui effraie. Et notamment par rapport à tout ce qu'on peut en dire, tout ce qu'on peut y penser. Donc, enfin, c'est fou. Et aujourd'hui, je me dirais, enfin, vas-y plus tôt. Aujourd'hui, toutes les personnes que je rencontre, je leur dis, vas-y plus tôt. L'avantage de travailler à l'opéra, c'est que pour chaque spectacle, j'ai deux places pour la générale. Et j'ai emmené, à chaque fois, j'emmène un nouvel ami différent qui n'a jamais été à l'opéra non plus. Je dis, mais viens, c'est trop cool. Je dis, mais il faut que je m'habille spécialement, il faut que je me renseigne avant. Je dis, mais non, viens, enfin, viens comme tu es. Et sincèrement, je le pense aujourd'hui et je le dis sincèrement, tout le monde peut venir comme il est. Et en fait, c'est comme le théâtre, c'est comme le cinéma. Il y a des gros blockbusters, on sait qu'on va forcément aimer. On connaît à peu près la musique, on connaît à peu près l'histoire. Après, on aime ou on n'aime pas. Et puis, il y a des choses un peu plus niches, plus contemporains, moins connues. Et en fait, c'est comme au cinéma. Enfin, c'est exactement ça. On va voir des gros films, tout le monde a dit va les voir. Ça se trouve, on va pas du tout aimer. Ouais. Et un petit film niche, parce qu'on avait envie d'aller au ciné, la séance de 19h nous plaît, on n'en a pas entendu parler. Et gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Donc, je pense que c'est pas réservé à un monde d'initiés, mais il faut vraiment se faire violence et passer la porte. Une fois qu'on a passé la porte, on se rend compte à quel point c'est facile, il y a des tarifs étudiants. Là, je parle pour ma maison, je parle pour l'Opéra de Strasbourg. Il y a des prix étudiants, franchement, c'est une chance qu'on a en tant qu'étudiant, mais même en tant que jeune. Et il faut y aller, franchement. Enfin, je préférerais aller voir... Enfin, j'ai toujours aimé aller au théâtre, j'ai toujours allé au cinéma, mais une bonne soirée à l'opéra, en fait, c'est pas ce qu'on imagine. Ça fait du bien, quoi. C'est vraiment chouette.
Ça fait du bien. L'opéra fait du bien. Merci, Louane. Merci. Tout de suite, le troisième extrait pour nous.
Ahora sí, los dueños del swing, pa que sepa. Con su estilo, como un figurín, por eso es que yo digo que esa negra tiene swing.
Soleil dans cette musique endiablée, Louane, que tu as choisi de nous faire entendre. Pourquoi as-tu choisi cet extrait?
Alors, cette musique, donc, vous avez peut-être pu en marquer, c'est un meringué. Bon, là, on n'a pas pu danser, mais l'idée, c'est ça, c'est la Dueña del Swing de Los Hermanos Rosario. Et en fait, j'ai choisi cette musique parce que, donc, toujours dans mon parcours un petit peu entre la culture, la médecine, les lettres, bah, en fait, pendant mon année à l'étranger à Sciences Po, je suis partie en Colombie, ce qui a été une surprise pour mes parents, ma famille, mes proches, parce que j'ai fait 10 ans d'allemand. J'habite à Strasbourg.
Enfin, oui, et tu pars en Colombie. Oui, effectivement, la logique est difficile à trouver.
Sans parler un seul mot d'espagnol. Donc ça a été, comme l'opéra, je n'y connaissais absolument rien. Ça a été très compliqué Au début, franchement, j'ai regretté. Les premières semaines ont été dures. Et en fait, je pense que ça a été la plus belle expérience de ma vie. J'ai passé un an à l'autre bout de la planète. J'ai découvert l'Amérique latine. J'ai fait toute l'Amérique latine en bus. C'était très long. Parce qu'on s'imagine, un Flixbus en France, c'est long. Là, c'était très long. C'était très, très long. Et en fait, et cette musique, je trouve qu'elle représente bien l'idée de cette année à l'étranger. Ça a été beaucoup de sourires, beaucoup de soleil. Et ça va être très cliché, mais en fait, c'est vraiment ça. C'est l'idée que j'en retiens. C'est des gens dans la rue qui dansent, qui mettent la musique à fond. On va chez l'épicier du coin. Il y a toujours de la musique, des gens qui chantent. Et en fait... La culture, elle n'est pas forcément dans des institutions. Il n'y a pas de grands opéras ou de grands théâtres. La musique, l'art, la culture, elle est dans la rue, dans les graffitis. La musique, elle est partout, dans les voitures, très très forte. Et je trouve que ça représentait bien un petit peu cette autre part.
Oui, c'est ça, tu as vécu une très belle aventure. Et qu'est-ce qui t'est arrivé Est-ce que tu aurais une anecdote insolite à nous faire partager?
Alors, en anecdote insolite, bon, forcément, il y a eu la barrière de la langue.
Oui. Les mains, peut-être, non, pour se faire comprendre au début.
Ouais,
je sais
les
pas.
Mains. J'ai fait Duolingo pendant un mois. Ça n'a pas été suffisant. Et je me rappelle un jour au restaurant. Là-bas, ils mangent des arepas. C'est comme des petites crêpes. Et donc, je voulais une arepa chaude.
Bon.
Sauf que je confondais un petit peu tous les mots. Et donc, je vais voir le serveur. Je lui demande une abuela caliente. Mmh. Et il me regarde bizarrement. Il me regarde, je dis, por favor, una abuela caliente. En fait, abuela, ça veut dire grand-mère. Je lui ai demandé une grand-mère chaude.
Ah oui, d'accord. Et donc il n'avait pas ça dans le menu.
Une grand-mère chaude. Oui, au restant, non, franchement, au niveau de la langue, il y a eu une vraie barrière culturelle.
Oui.
Et en anecdote un petit peu folle, j'ai été expulsée de Colombie.
Oula.
Alors, dit comme ça,
oui,
qu'est-ce qui s'est passé
un petit peu, mais oui.
En fait, j'ai eu un problème pour refaire mon visa. Beaucoup de problèmes avec l'ambassade. Et un jour, on m'a annoncé que j'étais illégale sur le territoire, qu'il fallait que je quitte au plus vite le territoire. J'avais une amende internationale et j'étais toute perdue. Je parlais pas très bien espagnol. Quand Marie-Anne m'a dit là, il faut que tu quittes le territoire, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je peux aller? Mm-hmm. Et en fait, je me souviens avoir appelé mes parents en pleurs. J'avais pas remarqué, moi je les ai appelés en mars, pour eux c'était le 1er avril. Je les ai appelés en pleurant, papa, maman, je suis expulsée de Colombie, mon père qui rigole.
Ah, bah oui.
Qui se marre en mode, enfin, Louane, mais.
Oui, c'est bon, 1er avril, ok, c'est bon. Oui.
Je dis, mais c'est pas une blague, je suis vraiment expulsée. Et en fait, je suis partie toute seule au Panama. J'ai passé une journée au Panama. Mes colocs colombiens qui étaient totalement flippés. Du milieu, j'ai moi la petite française qui parlait pas un mot, sans internet, sans rien, dans un autre pays. Et au final, je m'en suis bien sortie. Mais voilà, j'ai été expulsée de Colombie. Enfin,
mais tu es une aventurière, en fait. De passer de Sciences Po à l'Opéra National du Rhin, c'était rien du tout, finalement. Parce que tu as vécu quand même des choses assez, assez intenses.
Non, franchement, c'était beaucoup d'anecdotes improbables, mais c'était incroyable.
Ah, mais c'est bien, c'est l'aventure. Ça, c'est l'aventure. Et tu imagines comment ta vie professionnelle, enfin, je veux dire, entre toutes ces déboires.
Alors, comme... T'as pu voir, je me laisse porter.
Oui, oui, mais tu as confiance en fait, t'as confiance en la vie. Heureusement, c'est bien.
Je fais confiance un petit peu sur un malentendu, ça passe.
Oui, c'est ça.
Un peu ça.
Oui.
Pour l'instant, j'essaye de suivre un peu ce que j'aime. L'idée après cette année, c'est je vais en master 2 en PGC, donc qui est en gestion de la culture.
Ah, tu te l'aimes pas tellement, finalement, de la culture.
Ouais, en fait, avant la césure, je me suis posé la question. On m'a proposé de poursuivre mon mémoire en thèse. Et du coup, c'était une thèse liée à la médecine, donc avec la faculté de médecine, sur la contraception en France. Je savais pas trop continuer en thèse ou pas. Et cette expérience dans la culture m'a vraiment montré que, pour l'instant, en tout cas, c'est ma voie. Et j'ai vraiment envie de continuer. Donc... à l'opéra ou non, après mon master, je reviendrai toquer à la porte.
Bien quand tu veux,
Sandrine, je reviendrai. Et puis sinon, je sais pas exactement. Aujourd'hui, je sais ce que je ne veux pas et ce que je veux. Et j'aimerais continuer à trouver un endroit où je peux aller au travail avec le sourire. Cette année, j'ai vraiment découvert l'importance d'être considérée au travail et dans son travail. J'aime me sentir challengée et j'en avais déjà l'intime conviction, mais aujourd'hui j'en suis sûre. Je ne peux pas passer ma vie enfermée dans un bureau toute seule. j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de contact. Et pour l'instant, c'est ce que j'aime. Donc, je vais essayer de continuer en cette voie.
Mais on te souhaite tout le succès que tu mérites, chère Louane.
Merci.
Est-ce que tu veux bien te prêter, et d'ailleurs, tu n'as pas le choix, tu vas te prêter, tu vas te prêter au jeu du portrait chinois. C'est traditionnel dans les rendez-vous d'Opéra Studio. Donc, je te pose des petites questions et tu réponds comme ça, pouf, pouf, pouf.
Okay,
c'est parti. Allez, on y va. Si tu étais un animal, qui serais-tu ?
Un alpaga.
Un alpaga. What is...
C'est mon animal totem.
Très bien. Bon, bah, c'est super. Tu es frileuse, peut-être, non, c'est ça?
Non, mais non, les grands cheveux, les cheveux bouclés.
Ouais. Ah, c'est ça.
C'est
d'accord.
Mignon.
Très bien. Si tu étais un peintre.
Freddy Serna.
Magnifique. Si tu étais un paysage.
Toujours la Bretagne, un coucher de soleil à Saint-Lunaire.
Oh, et si tu étais une année historique.
Des années 70-80. Il y a un peu de douceur dans ce monde de brut.
Oui, c'est bien. Si tu étais un moment de la journée.
La nuit.
La nuit, d'accord. Si tu étais une salle de concert.
La laiterie à Strasbourg ou l'Ubu à Rennes.
C'est très précis. Si tu étais un opéra.
Je vais dire la Traviata pour l'Opéra Studio.
Ah oui, c'est magnifique la Traviata. Si tu étais une artiste.
Virginie Despentes.
Ok. Un type d'art.
Et là, j'arrive pas, hein. C'est musique ou théâtre, je pourrais pas choisir.
Tu ne peux pas choisir, ne choisis pas, tu as raison. Et une compositrice ou un compositeur.
Tu l'auras compris, Yann Tiersen.
Ah oui, ouais. C'est bien. Un petit peu breton. Hein, 20 ans. Et si tu étais un musée.
Entre le couvent des Jacobins de Rennes, quand il est en centre d'exposition, et le Moco Museum à Amsterdam.
Ok. Une œuvre d'art.
Quadro Quadrado de Freddy Serna.
Non, j'irai voir ça. Et un trait de caractère pour finir.
Je dirais la passion, être passionné.
Oui, je pense. Moi, je dirais solaire. Écoutez, il est temps de nous quitter. Merci, grand merci, chère Louane, de
merci
ce moment
toi,
passé en ta compagnie. Et s'il n'y a qu'une phrase à retenir, ce sera « L'opéra fait du bien ». Merci beaucoup au fidèle Francis, toujours aux manettes, avec le sourire. Merci à toi une nouvelle fois. À très bientôt pour une autre émission des Rendez-vous de l'Opéra Studio. D'ici là, chantez, soyez heureux et prenez soin de vous. Au revoir.
Les rendez-vous,
the meeting. Les rendez-vous,
the meeting of the opera studio.
Ontmoeten aan het opera studio.
Les rendez-vous,
the meeting.
Les rendez-vous.
L'appuntamento dell'opera studio.
Try to remember the kind of September when life was slow.
C'est pas bien ça. Les lents et fous, les sans les roues, les.
C'est dans le.
Les lents des roues, le.
En espagnol.
De l'opéra.
Ah, pas bienvenue.
Studio.
The Opera Studio's Rendezvous.
Los Encuentros del Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Poznanie Opera Studio.
Merhaba, le rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.